Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Lucas Lazo, réalisée par Vincent Abouchard et mise en onde ce matin par Morgane Danan. Comme tous les vendredis, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler ce matin d'Afghanistan. Dimanche dernier, le président américain a annoncé qu'il signerait personnellement un accord avec les talibans dans le cas où la trêve partielle serait respectée. Car en effet, depuis quelques jours, les armes ont commencé à se taire en Afghanistan, ouvrant la porte à un texte qui pourrait être signé demain à Doha. Et donc à un retrait progressif des quelques 13 000 militaires américains toujours déployés 18 ans après l'invasion engagée en représailles des attentats du 11 septembre. Si ça marche pendant le reste de la semaine, a déclaré Donald Trump, je mettrai bien mon nom dessus, il est temps de rentrer à la maison. Et eux, les talibans, ils veulent arrêter. Alors la paix est-elle sur le point d'advenir en Afghanistan ? Où sommes-nous encore très loin du compte ? À quoi ressemble l'accord en discussion entre les talibans et les américains ? Quelles sont les concessions que les deux parties sont prêtes à lâcher ? Et comment pourrait s'organiser le dialogue et le partage du pouvoir dans le camp afghan miné par les divisions ? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Olivier Guillard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'information chez Garda World, mais chercheur également au CERIAS de l'Université de Québec. Avec nous également Jean-Pierre Perrin. Bonjour Jean-Pierre Perrin.
Bonjour.
Les auditeurs de Culture Monde vous connaissent puisqu'il fut un temps où vous co-animiez de temps en temps les émissions du vendredi, cher Jean-Pierre. Vous êtes journaliste aujourd'hui pour Mediapart, écrivain, auteur d'un certain nombre d'ouvrages, Le djihad contre le rêve d'Alexandre, La mort est ma servante et bien d'autres encore. Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs un très grand spécialiste de l'Afghanistan. On a eu l'occasion d'en parler déjà à plusieurs reprises. Avant de parler de l'Afghanistan, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient d'Iran. C'est Alan Caval. Bonjour Alan Caval.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste au Monde, Alan Caval, et vous étiez il y a quelques jours encore pour en Iran pour la dernière ligne droite, la campagne des élections législatives qui se sont tenues le 21 février dernier. Pour rappel, le scrutin a été remporté par les conservateurs malgré une très faible participation de l'ordre de 42%. C'est un scrutin qui se tenait dans un climat évidemment de défiance très important avec des manifestations qui se sont multipliées ces derniers mois et en particulier je pense à celle de novembre avec cette annonce de la hausse du prix du carburant avec ces manifestations qui ont été très durement réprimées par le pouvoir, avec des centaines de morts à la clé. Sans oublier, évidemment, cette séquence, on aura peut-être l'occasion d'en parler, avec ces atermoiements, voire même ces mensonges autour de la catastrophe de cet avion visé par un tir de missile iranien, qui a provoqué une très grande colère chez la population. Mais peut-être, on va commencer, Alan Caval, avec l'actualité, et elle est aussi concernée par la crise sanitaire qui touche aujourd'hui l'ensemble du monde, puisque l'Iran est le pays aujourd'hui, hors Chine évidemment, le plus touché par le fameux Covid-19. Alors on a du mal, Alan Caval, à avoir une idée claire de la situation aujourd'hui. On a parlé d'une douzaine de morts, on a parlé d'une quarantaine de morts, d'une cinquantaine, peut-être que ce serait beaucoup plus, mais en revanche, ce qui semble apparaître, Alan Caval, et vous en parlez dans l'un de vos papiers qu'on peut relire sur le site du Monde, c'est qu'on a masqué la réalité. Qu'est-ce qui laisse entendre qu'effectivement on a masqué la réalité sur la crise sanitaire en cours aujourd'hui en Iran, et est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de cette crise aujourd'hui ?
Alors sur l'ampleur de la crise, effectivement c'est très difficile de le savoir parce que bien sûr les résultats dans un premier temps qui sont donnés par les autorités sont sujets à caution ou en tout cas font l'objet d'un certain doute de la part de médecins qui travaillent sur le terrain dans les hôpitaux qui sont affectés au traitement des patients atteints ou suspectés d'être atteints du Covid-19. Ces médecins, lorsqu'on leur parle, lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, sur Instagram pour certains, sur Telegram pour d'autres qui sont très utilisés par les Iraniens, ils font état effectivement d'une réalité de terrain à leur bout de la chaîne qui paraît complètement incohérente par rapport aux chiffres qui sont donnés par le gouvernement. Mmh. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une volonté délibérée de masquer pour éviter des mouvements de panique ou est-ce que de toute manière, il y a une désorganisation du système qui fait que les chiffres ne remontent pas ? Certains médecins avec lesquels on a pu parler, moi-même et ma collègue Razal Golchiri qui travaille également sur l'Iran au Monde, font état dans les premières semaines en fait de l'apparition en fait de personnes avec des symptômes suspects donc dès en fait le 11 février font état d'une volonté de leur supérieur hiérarchique voire des supérieurs de leur supérieur de ne pas ébruiter ces questions,
pourquoi
ne pas trop se concentrer sur ces questions car il y avait effectivement et c'est l'interprétation qu'en font ces médecins à qui nous parlons et qui s'expriment par ailleurs par eux-mêmes l'interprétation selon laquelle les autorités voulaient éviter à tout prix qu'il y ait effectivement que cette épidémie ou que l'information sur cette épidémie ou qu'un mouvement de panique, si vous voulez, réduise la participation aux élections du 21 février, donc 10 jours après, à peu près, hein, les premiers, le fait qu'on repère les premiers patients atteints de syndrome suspect.
Ce qui n'a pas été une grande réussite, puisque la participation est de l'ordre de 42%, mais on va revenir sur ces résultats, essayer d'en faire une petite analyse, Alain Caval, mais pour rester sur ce fameux Covid-19, pendant longtemps, on n'a pris aucune mesure, là, on commence à prendre des mesures, et des mesures importantes.
Oui, des mesures ont commencé à être prises, mais c'est vrai que les médecins à qui on peut parler, ceux qui s'expriment également, nous disent que ces mesures sont arrivées trop tard, et qu'entre-temps, effectivement, il y a eu des problèmes pour repérer les cas, des problèmes pour réellement organiser au niveau des hôpitaux des lieux d'isolement pour les patients, qu'il y a eu ce retard qui a été pris pour des raisons politiques, que ce retard a eu des effets, évidemment, sanitaires.
Et jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller? Parce qu'on a vu évidemment du côté de la Chine cette capacité à fermer totalement des quartiers, voire même des villes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? Est-ce que par exemple Téhéran pourrait être totalement mise sous quarantaine? C'est possible?
Alors, jusqu'à présent, les autorités se sont montrées hostiles à l'idée de mettre des localités sous quarantaine. Par exemple, pas mal de professionnels de santé s'interrogeaient sur le fait que le foyer de l'épidémie, qui est la ville sainte de Qom, au sud de Téhéran, n'ait pas été mis en quarantaine, alors qu'effectivement les cas s'étaient multipliés dans cette ville. Même un député de cette ville avait fait état lors d'une réunion à huis clos au Parlement, puis après s'était exprimé en public sur le fait que la ville comptait déjà 50 cas, 50 morts qui ne correspondaient pas finalement aux chiffres déjà bien inférieurs qui étaient donnés par le gouvernement. Et donc la question de la mise en quarantaine de Qom a été posée, mais les autorités ont refusé de le faire. Il y a évidemment à cela des raisons qui sont politiques, des raisons qui sont économiques, et aussi peut-être la conscience de ne pas forcément avoir la possibilité ou les moyens de le faire.
Justement, sur les questions économiques, il y a déjà des pays qui ont décidé de fermer leurs frontières. Je pense à la Turquie, par exemple. On sait que l'économie se porte évidemment très mal, qu'elle est toujours sous sanctions américaines, européennes. Concrètement, si l'Iran se retrouve totalement coupé du monde, elle l'est déjà énormément, mais si tous les voisins ferment leurs frontières, donc il n'y a plus d'échanges commerciaux, les conséquences possibles.
C'est-à-dire que justement, le problème, c'est que ces fermetures de frontières finalement bloquent les exportations non pétrolières de l'Iran, qui étaient un petit peu les seules exportations que la République islamique pouvait encore faire, celles qui étaient les moins sujettes aux sanctions, évidemment, et qui permettaient quand même au secteur manufacturier et au secteur, par exemple, agroalimentaire iranien, de continuer tout de même à tourner, d'avoir une demande dans les pays voisins qui s'ajoutait à la demande intérieure. Évidemment, c'est un sérieux coup de massue pour ce secteur-là. Reste à savoir comment ces fermetures de frontières vont se prolonger, jusqu'à quand elles vont se prolonger, et si effectivement ce choc va pouvoir être absorbé par le secteur manufacturier.
Alors les dernières élections législatives, Alain Caval, le taux de participation, on le disait, 42%, à peu près 42,57%, c'est le taux le plus bas de toute l'histoire de la République islamique depuis les élections législatives de 1980. Dans ce contexte-là, comment analyser ce résultat, sachant que je le disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est d'accord les conservateurs qui l'ont emporté, mais avec compte tenu de cette participation aussi faible, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela?
Alors, le chiffre même de cette participation est remis en cause par certains observateurs qui estiment qu'il aurait même pu être gonflé. Cela étant dit, il est évident qu'il y a eu une volonté, en tout cas plutôt une absence de désir d'aller voter, qui était liée à une certitude de la part de beaucoup d'Iraniens qui avaient pu se déplacer il y a 4 ans, que leur vote ne changerait pas la situation. Il y a 4 ans, on était dans un monde complètement différent. L'accord sur le nucléaire avait été signé en 2015. Il y avait tout de même un exécutif qui, autour de la figure du président Rouhani, représentait un espoir d'ouverture économique, éventuellement d'ouverture sociale, ou de normalisation des rapports de l'Iran avec la communauté internationale. Et en 2016, pour tous les Iraniens qui rêvaient un peu de changement, quelle que soit leur classe sociale, il y avait la nécessité peut-être de finalement d'encourager cette dynamique en soutenant les alliés du président Rouhani qui se présentait aux élections en 2016.
C'est par exemple ce que vous raconte ce jeune homme Mani, 28 ans.
Tout à fait, qui lui avait voté, qui dit avoir fait voter, avoir milité pour que les gens dans son entourage aillent voter à cette période, mais qui aujourd'hui n'ira pas voter lui-même évidemment, parce que déjà les candidats réformateurs et modérés qui étaient, nombre d'entre eux ont vu leur candidature invalidée par les institutions de la République islamique qui sont en charge de rendre possible ou non les candidatures aux élections législatives, mais également parce qu'ils estiment que de toute manière, quel que soit le vote le candidat qu'ils pourraient choisir, c'est le système même de la République islamique qui est pour eux en cause, et ils ne croient plus en l'idée de pouvoir le modifier, de pouvoir le changer de l'intérieur. Ils ne pensent pas que ce système, les personnes que j'ai pu rencontrer et qui étaient un petit peu dans cette configuration, qui est liée à des gens qui sont à Téhéran, qui ont voté il y a 4 ans, qui refusent de voter aujourd'hui, sont des personnes qui vous disent voilà, on a choisi pendant des années entre quelque chose de mauvais et quelque chose d'un peu moins mauvais, et aujourd'hui on se rend compte qu'il n'est plus possible effectivement de faire, on ne veut plus faire ce choix, et on fait sécession en quelque sorte politiquement de ce système. Alors cette sécession, comment elle se manifeste? Soit par un désir d'exil très prononcé qu'on retrouve chez nombreux jeunes professionnels entre 25 et 35 ans qui parlent beaucoup de partir au Canada, et d'une sécession vers l'espace privé, vers l'espace intime, vers l'espace familial ou amical, ou en tout cas un retrait vis-à-vis d'une vie publique qui est considérée comme étant sclérosée et ne pouvant pas évoluer pour cette catégorie de population.
Donc ça veut dire qu'on ne croit pas aujourd'hui à la capacité de mener une action collective qui permettrait de changer ce système, parce qu'on comprend bien qu'au fond ces élections, elles sont, il y a un double message. Il y a d'abord un message qui est adressé à l'ayatollah qui avait beaucoup insisté sur la nécessité d'aller voter. 42% de participation, c'est clairement un échec pour lui. Et il y a aussi un autre message qui est celui qui est adressé aux modérés qui, effectivement, vous le disiez, il y a 4 ans, avait proposé, enfin en tout cas porté cet espoir d'ouverture qui, de fait, alors effectivement Donald Trump évidemment a beaucoup aidé pour cela, mais là aussi on a un message qui est adressé à l'égard des modérés. Mais est-ce qu'on pense que du coup, compte tenu de ces échecs du système de façon générale, est-ce qu'on pense encore qu'on peut changer ce système, et est-ce qu'on a encore envie de descendre dans la rue, ou est-ce que par exemple ce jeune homme, Mani, est totalement résigné et il n'y a plus que l'exil ou le repli sur la sphère personnelle, comme vous le dites? Quid de l'action publique?
Alors l'action publique, elle est complexe quand lorsqu'effectivement des manifestations, comme on l'a vu
l'action
en novembre,
collective, pardon.
L'action collective, mais comme on l'a vu en novembre, c'était des je ne sais pas si on peut vraiment parler d'action collective, mais en tout cas des manifestations de masse. Est-ce qu'elles sont organisées? Non, mais c'est comme la majeure partie des mouvements sociaux qu'on voit à travers le monde. Je pense que l'Iran n'est pas un cas forcément isolé. On voit peu de mouvements sociaux qui arrivent à se structurer et à réellement proposer une alternative au système qu'ils combattent. En Iran, c'était le cas, mais il se trouve que cette action de masse, à défaut d'être organisée, de toute manière, a été réprimée avec une force, avec une violence qui était même inédite, si on regarde même l'histoire récente de la République islamique. On ignore encore le nombre de morts. Même le nombre de morts officiel, les autorités ne l'ont pas donné. Des organisations comme Amnesty International parlent de plus de 300 morts, ce qui est déjà un chiffre important. D'autres observateurs estiment qu'il est possible que ce chiffre soit encore plus élevé. Et en tout cas, cette violence, cette répression, bien sûr, dissuade de se sortir dans les rues.
Alain Cavale, regardons les résultats malgré tout, parce qu'il y a quand même des gens qui ont voté. Absolument. Et peut-être qu'il faut regarder à Téhéran en particulier, parce que vous dites que souvent dans les provinces, l'élection d'un parlementaire, c'est souvent affaire de clientélisme, c'est souvent affaire d'intérêts locaux, donc c'est pas forcément très représentatif. En revanche, à Téhéran, ça l'est plus, dites-vous. Si on regarde ce qui s'est passé du côté de Téhéran, c'est l'ancien maire Mohammad Bakir Ghalibaf qui est arrivé en tête. Vous dites même qu'il pourrait devenir le président du prochain parlement. Qui est cet homme? Que nous dit sa victoire des dynamiques politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui en Iran?
Alors, M. Ghalibaf est issu des rangs des gardiens de la Révolution. C'est aussi, bien sûr, l'ancien maire de Téhéran. C'est aussi un homme qui est perçu comme ayant mené à bien un certain nombre de projets importants de modernisation de Téhéran, d'infrastructures. Donc, quelqu'un qui est perçu, qui peut en tout cas se présenter comme étant à la fois issu de ces gardiens de la Révolution qui sont l'armée idéologique du régime iranien, qui sauvegarde en fait sa dimension révolutionnaire, qui sont censés sauvegarder sa dimension révolutionnaire, et en même temps d'un homme effectivement qui est efficace, pragmatique sur le plan finalement très concret de la gestion des affaires.
Ancien chef des forces aériennes.
Tout à fait. Des gardiens de la Révolution. Voilà. Donc c'est par ailleurs ancien garde du corps du guide. Enfin, c'est une personne qui a vraiment une pilote personnelle du guide également, qui a vraiment une carrière au sein des gardiens de la Révolution et au plus près du guide. Et donc il peut représenter effectivement, selon certains observateurs de la vie politique iranienne, cette nouvelle génération éventuellement de personnalités politiques qui sont à la fois complètement alignées effectivement sur le guide, mais en même temps qui représentent une certaine forme d'efficacité autoritaire dans la gestion des affaires.
Est-ce qu'on peut l'interpréter aussi comme un glissement vers une plus forte militarisation du régime ? C'est quelque chose qu'on évoque depuis longtemps, on dit les fortes tensions avec les États-Unis pourraient engendrer une forme de militarisation de ce régime-là. Est-ce que c'est aussi ça qu'on voit avec cet homme-là ?
Alors, avec cet homme-là, comme avec en fait la composition du Parlement, le Parlement qui est issu des élections du 21 février, dans la mesure où nombre des personnes qui ont été élues et nombre de personnes donc, qui ont été sélectionnées pour être élues, pour pouvoir être élues, sont connues pour leur lien fort avec les gardiens de la Révolution. Et quand on parle de militarisation, il s'agit bien de cette force-là des gardiens de la Révolution, hein, qui n'englobe pas l'ensemble des forces armées iraniennes, mais celles qui sont les plus idéologisées, ou en tout cas celles qui sont gardiennes de l'héritage révolutionnaire. Et donc, effectivement, cette victoire, en tout cas l'arrivée de ces personnes au Parlement iranien, est interprétée comme une première étape qui irait vers une emprise encore plus grande des gardiens de la Révolution, même si évidemment c'est un ensemble extrêmement vaste, qui comprend non seulement des forces armées, des intérêts économiques très importants, qui aurait donc une plus grande importance au sein des institutions, au sein de la République islamique, ce qui finalement irait dans le sens d'un alignement des centres de pouvoir autour d'une vision plus proche de celle qui est présentée par le guide, et donc avec un déclin des institutions élues de la République islamique, puisque ce Parlement sera un Parlement qui sera une simple chambre d'enregistrement où les débats qui pouvaient avoir eu lieu au cours des mandatures précédentes n'auraient plus cours.
Alors, justement, quelles conséquences de toutes ces transformations que vous nous décrivez sur la possible aggravation encore des relations avec Washington ? On sait que ça a été extrêmement tendu pendant des mois, il y a eu plusieurs séquences qui nous ont même fait penser qu'il y avait peut-être là l'imminence d'un conflit autour du détroit d'Hormuz, au début de l'année avec l'assassinat décidé par Trump de Soleimani. Est-ce que toutes ces évolutions récentes avec ces élections pourraient encore aggraver les choses ?
C'est-à-dire...
Et jusqu'où ?
Certaines personnes optimistes iront jusqu'à vous dire que le pouvoir iranien actuel prévoit une réélection de Donald Trump en novembre, et que cette réélection créera un contexte un peu différent. Par ailleurs, les évolutions internes en Iran avec cette centralisation, pardon, cet alignement des différents centres de pouvoir et donc cette homogénéisation finalement du leadership iranien pourraient en réalité peut-être être plus favorables à une forme éventuelle de négociation un peu paradoxale, pas forcément de négociation, mais en tout cas de règlement des conflits en partant d'un échelon local, d'un échelon très local et en remontant à peu près à des questions un peu plus globales.
C'est tout à fait inverse de l'avis de Nouriel Roubini, je ne sais pas si vous le connaissez, qu'on appelle Monsieur Doom aux États-Unis, qui avait annoncé la crise des subprimes, qui lui dit que malgré tout ça, une imminence d'une guerre avec les États-Unis, entre les États-Unis et l'Iran, est très probable. Il dit même que malgré la campagne du côté des États-Unis, il est très probable qu'il y ait une guerre ouverte avant la fin de l'année. C'est ce qu'il dit lui.
Alors j'ignore sur quoi il se fonde, mais toujours est-il sur. En tout cas, j'ignore comment on calcule les probabilités d'un conflit armé. Je pense qu'il y a parfois des choses qui se passent qui relèvent aussi parfois des circonstances. Mais en tout cas, ce qui est certes. Ce qui est certain, c'est que ce n'est l'idée selon laquelle, si vous voulez, le durcissement du régime et sa consolidation autour d'une option idéologique unique, et donc qui serait plus efficace pour éventuellement, non pas négocier, mais assouplir ou détendre les relations avec Washington, est une option optimiste qui est portée par certains diplomates à Téhéran, mais qui n'est pas nécessairement partagée par tout le monde. Ensuite, sur la question d'une confrontation militaire, il y a une deuxième chose, la vengeance du général Qassem Soleimani, la vengeance de l'assassinat du général Qassem Soleimani par les États-Unis n'a pas encore eu lieu. En réalité, n'est pas encore considérée comme complète. Il y a une relative ambiguïté autour du fait que, bien sûr, il y a eu cette frappe sur une base à Ain al-Assad en Irak, base où il y avait des soldats américains il est fort possible qu'il y ait eu beaucoup de chance et que ce n'est pas développé un conflit ouvert parce qu'il n'y a pas de morts américains, que c'était lié peut-être à des précautions mais aussi au hasard. Mais en tout cas, l'idée selon laquelle cette frappe sur la base d'Aïn el-Assad et terminait les festivités n'est pas forcément la bonne. Il y a en tout cas une volonté de consolider les outils d'influence régionale de l'Iran, c'est une influence militaire dans la région, après la mort de Qassem Soleimani, de les renforcer, de les consolider, de voir dans un autre contexte, une fois que ce sera fait, comment cette revanche, comment cette vengeance pourra réellement être mise en œuvre.
L'hypothèse d'un effondrement du régime sur laquelle d'autres parient, comme l'administration américaine par exemple, tout aussi peu probable.
Je ne vois pas de raison d'y penser à ce stade.
Peut-être une petite réaction de nos invités, Jean-Pierre Perrin, Olivier Guillard, Marc Semaux. Jean-Pierre Perrin, vous qui connaissez aussi très bien l'Iran.
Oui, j'étais frappé de la déclaration du président Rouhani, qui est un homme intelligent, avisé, bien conseillé, à propos du virus. Il a dit il y a vu un complot de l'ennemi. Or, un homme intelligent comme lui, c'est bien que, bon, c'est pas très crédible comme hypothèse. Alors, je me pose la question, pourquoi cette déclaration très à l'emporte-pièce? Et j'y vois peut-être la volonté du durcissement du régime, c'est-à-dire d'assimiler toute personne contestant quoi que ce soit à l'intérieur de la République islamique comme étant un potentiel ennemi qu'il faut immédiatement frapper. Donc, tous ceux qui diront qu'il y a plus de personnes contaminées que le chiffre officiel seront immédiatement considérés comme des ennemis. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a eu une vingtaine d'arrestations de personnes ayant avancé d'autres chiffres. Donc, à travers l'épidémie, on voit aussi quand même que le régime montre un visage qui est quand même de plus en plus dur.
Et puis, vous nous disiez avant de prendre l'antenne, Jean-Pierre Perrin, qu'on ne contrôle pas les personnes qui arrivent depuis l'Iran dans les aéroports français?
Oui, mais ça, c'est pas la faute des Iraniens.
Ah non, bien sûr, mais enfin bon, c'est quand même une nouvelle.
Oui, absolument.
Olivier Guillard.
Peut-être pour faire le lien entre les propos de nos amis et ceux qui vont venir dans quelques moments, vous parliez donc à l'instant de la vengeance donc du pouvoir iranien donc à l'endroit des États-Unis n'a pas encore eu lieu. Justement, donc en parlant de l'Afghanistan, où se passent donc des choses assez intéressantes, l'Iran est une des puissances régionales et ingérantes qui a donc des parts de marché, si je puis dire, dans ce pays. Compliquer le processus en cours ou en tous les cas, donc trouver manière d'ennuyer à la fois et Kaboul et Washington, c'est tout à fait donc à la main de Téhéran. Donc ça fait certainement partie des options qui sont déjà sur la table.
D'autant que le remplaçant de Soleimani, Kani, est un spécialiste de la zone afghane et pakistanaise.
On aura l'occasion d'en reparler dans notre table ronde qui suit. Merci beaucoup Alain Cavale d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde et qu'on peut retrouver l'ensemble de vos papiers sur le site dumonde.fr. Un grand merci.
Merci à vous.
کمرو بیا بیا قرش بده سکسی واسه همه زنگ زدنات مرسی واسه همه پیگیریات مرسی واسه همه کادوات مرسی وای بدن رو ببین جون بابا خودتو به لرزون بابا همه میگه ساسی پاشو همه رو
avec Sassi, ce chanteur iranien très apprécié dans la jeunesse iranienne, que l'on tourne cette page, qu'on se tourne du côté de l'Afghanistan. Afghanistan, la paix en ligne de mire, point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque Donald Trump en avait fait une promesse de campagne, le voilà sur le point de signer un accord avec les talibans qui permettrait à ses troupes de rentrer au pays.
Nous voulons, après 19 ans de présence en Afghanistan, après 19 ans, nous voulons ramener nos soldats à la maison. C'est là qu'ils veulent être, à la maison. Et nous voulons en rapatrier le plus grand nombre. Nous allons continuer à surveiller la zone. Cette région est un foyer à problèmes. Et quand nous les ramènerons, nos gars, à la maison, nous leur ferons savoir aux talibans que si quelque chose arrive, nous pourrons frapper très fort. Nous pourrions gagner le combat très facilement si je voulais tuer des millions de personnes. Je ne veux pas tuer des millions de personnes, des innocents.
Voilà ce que disait Donald Trump cette semaine en conférence de presse depuis New Delhi, puisqu'il était en voyage du côté de l'Inde. La guerre en Afghanistan, qui est la plus longue que les États-Unis aient jamais menée, et l'accord qui doit être signé ce samedi à Doha entre l'administration américaine et les talibans pourrait peut-être marquer une étape décisive dans le processus de paix, même si je mets une série de guillemets à la formule. Jean-Pierre Perrin, Olivier Guillard sont nos invités. Marc Sémo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Marc, alors cet accord, il est suspendu à une trêve qui a commencé il y a quelques jours. Pour le moment, elle tient. Et donc, la possibilité d'un accord devient tangible. Alors, il va falloir voir ce que ça donnera. On va voir dans un instant qu'évidemment, les obstacles sont grands. Il n'empêche que c'est quand même une avancée qu'on peut dire historique, peut-être, Maximo.
Oui, c'est à la fois une avancée historique et en même temps, cela ne règle pas grand-chose. Ces 18 ans de guerre, effectivement, sont la guerre la plus longue menée par les États-Unis, d'où cet engagement de Trump à vouloir à tout prix ramener les boys, et d'où aussi le risque d'une paix bradée. Alors la trêve a tenu, hein, il y a eu très peu d'incidents. L'accord devrait donc bien être signé entre les États-Unis et les talibans, qu'ils avaient chassés du pouvoir en 2001 après les attentats du 11 septembre pour leur soutien à Al-Qaïda à Ben Laden, mais les États-Unis n'ont pas réussi à les écraser. Alors ensuite, avec cet accord de Doha, après devraient commencer des négociations inter-afghanes entre d'un côté les talibans, de l'autre le président Ashraf Ghani, les autres composantes du monde politique de Kaboul qui est profondément divisé. Et nul en tout cas ne se fait d'illusions sur la capacité des autorités de Kaboul à tenir le terrain face au mouvement islamiste, surtout sans le soutien des 12 000 soldats américains. Alors le retrait sera progressif, mais s'il a réellement lieu, complètement, comme l'exigent les talibans, comme quelque part le souhaite aussi Donald Trump, il y a un risque que l'on se retrouve un peu comme en 1989, après le retrait des soviétiques, le pays a plongé aussitôt dans la guerre civile, et le président Najibullah, le protégé de Moscou, laissé en place, fut balayé 3 ans plus tard, et encore 3 ans plus tard, en 96, il a été pendu par les talibans. Donc il y a bien ce risque d'une paix bradée, après 2300 morts américains, et 1 000 milliards de dollars de frais militaires et de reconstruction. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le rêve d'édifier avec l'aide internationale, après 2001, un État afghan plus ou moins démocratique, libéré de l'obscurantisme des talibans, permettant notamment l'éducation des filles, était déjà bien mis à mal. Et on peut penser maintenant qu'il est définitivement enterré.
Voilà, le décor est posé. Olivier Guillard, je vais peut-être commencer avec vous parce que vous êtes directeur de l'information chez Garda World, qui est une société spécialisée dans la sécurité. Et donc, vous avez des informations de première main, si je puis dire, sur les questions sécuritaires. La trêve aujourd'hui, est-ce qu'elle est bel et bien respectée? C'est une trêve partielle, mais est-ce qu'elle est à peu près respectée, en tout cas comme on s'était engagé?
Alors, nous avons été relativement bons avec le concept. En fait, ce n'est pas une trêve, mais c'est une réduction de la violence. Donc, c'est déjà un concept surréaliste dans ce pays. Alors, d'une façon générale, donc quand on a la volumétrie qui est juste hallucinante au quotidien des violences du nord au sud, d'est en ouest de ce pays et dans le centre, nous avons eu donc à peu près 80% de réduction de violence par rapport à une semaine classique. Donc, après, réduire la violence sur un spectre de 7 jours, c'est juste... Enfin, bon, autant s'arrêter 5 minutes. C'est déjà ça. S'il s'agissait certainement de capitaliser sur le peu acceptable pour les talibans, donc à savoir, nous ne voulons pas les talibans, on dit clairement, il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas de cessez-le-feu. On veut éventuellement faire un geste en disant, nous serons moins violents, pour montrer combien nous sommes attachés à la paix. Il y a quelques jours aussi, c'était dans un autre passage surréaliste, nous avions donc une des personnalités du mouvement taliban parmi la branche la plus dure, donc du réseau Haqqani, qui a publié donc une tribune, je ne sais plus si c'est dans le Times ou si c'est dans le New York Times, disant « Nous, talibans, nous voulons la paix et nous allons l'avoir », la raison pour laquelle donc nos représentants à Doha s'acoquinent avec les représentants de l'administration Trump et nous allons avoir la paix. Il y a eu un peu moins de violence, rien n'indique.
Oui, mais ce que voulaient les Américains, c'est qu'il n'y ait pas d'attaque sur les bases américaines. Là, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas eu. C'est certainement le côté intelligent, entre guillemets, qui ne profite pour l'instant aux talibans, à ceux qui évitent d'être meurtris par ces attaques, et aussi donc à l'administration Trump qui dit « Regardez, it works ».
Jean-Pierre Perrin, vous allez peut-être faire un petit peu de pédagogie et nous expliquer ce qu'il y a dans cet accord qui pourrait être signé demain à Doha.
Alors normalement, il y a un engagement des talibans de ne plus avoir comme ami, comme mentor, Al-Qaïda. Or, il faut savoir que c'est un peu un marché de dupes, parce que Al-Qaïda en Afghanistan a complètement ou quasi complètement disparu. Peut-être quelques centaines de combattants, et c'est peut-être peut-être moins, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, Al-Qaïda n'est plus la menace qu'il a pu être dans les années précédentes. Il était tout simplement en grande partie remplacé par la branche afghane de l'État islamique qui s'appelle Wilayat Khorasan et qui donc est vraiment la branche dure, une des branches dures de l'État islamique en Afghanistan. Donc il y a cet engagement compromis les talibans de finalement de couper leurs relations avec Al-Qaïda. Donc un point d'interrogation sur cette question. Rien n'indique en plus qu'ils tiendront leurs promesses. Mmh. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, les talibans sont divisés. Hein. Ils ont toujours eu des commandements extrêmement décentralisés, des commandements militaires décentralisés. Et on sait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, même s'ils parlent toujours d'une seule voix. C'est assez remarquable. C'est la différence finalement avec l'administration américaine, où on entend la voix du président, on entend la voix du State Department et on entend la voix du ministère de la Défense. Eux parlent d'une seule voix et finalement, s'ils ne veulent pas de trêve, c'est aussi pour empêcher que le mouvement se délite et d'autre part pour finalement que leur mobilisation reste intacte. Donc on a tous ces éléments qui sont à prendre en compte dans la balance. Et puis alors la grande question sur laquelle toute la société civile, parce qu'il y a une vraie société civile afghane, réfléchit, c'est est-ce que les talibans ont changé ou pas ? Ça c'est le grand point d'interrogation. Alors si on regarde les déclarations des talibans, on peut estimer qu'ils ont fait des pas en avant. Ils ont notamment accepté de rencontrer des membres du gouvernement, mais pas en tant que membres du gouvernement, d'une façon un petit peu des officiels, certes, mais dénués de tout statut de négociateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ces talibans, finalement, si on regarde la réalité du terrain, en revanche, on voit qu'ils n'ont pas changé. Jamais il y a eu autant d'exactions dans les zones talibans qu'en ce moment. D'ailleurs, il y a eu un article récemment du New York Times. Disons que non seulement ils s'en prenaient évidemment aux soldats et aux membres des forces de sécurité afghanes, mais il arrivait aussi qu'ils s'en prennent à leur famille. C'est-à-dire qu'ils assassinaient la femme, ils assassinaient les frères, les sœurs et qu'ils brûlaient les maisons. Donc on a une sorte de contradiction entre ce qui peut être dit par les dirigeants talibans qui effectivement ont fait du chemin et ce qui se passe, la réalité du terrain.
Olivier Guillard, la grande question, ce que veulent les Américains, alors c'est d'abord évidemment organiser le retrait des troupes, c'est-à-dire faire que les talibans ne s'attaquent pas aux Américains, aux bases américaines dans ce processus de retrait, mais ce que veulent les Américains, c'est aussi que les talibans engagent une discussion avec les autorités centrales. Et alors là, on a un gros problème, parce que avec qui les talibans pourraient discuter, sachant qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, alors certes, on a eu des élections, mais on a mis plusieurs mois à savoir qui les avait véritablement remportés. On ne sait pas d'ailleurs exactement si tout cela n'a pas été choisi en dehors de toute considération purement élective. En gros, est-ce que c'est pas tout simplement à un moment les États-Unis qui ont dit bon bah voilà, ça sera le président sortant Ashraf Ghani qui va être conduit, et puis le premier ministre Abdullah Abdullah qui lui aussi revendiquait la victoire va rester lui à son poste. Mais bon, bref, on a un problème déjà au niveau des autorités afghanes qui sont extrêmement divisées. Mais est-ce que les talibans sont vraiment prêts à discuter avec Kaboul?
Bienvenue en Afghanistan. Vous avez résumé parfaitement un petit peu ce qu'est le quotidien.
Non, mais je suis sûr que vous allez complexifier encore.
Probablement. Donc, effectivement, nous avons d'un côté les talibans qui, grosso modo, disent « Nous, le sens de l'histoire nous porte. Nous n'avons pas de considération d'élection, nous n'avons pas de sondage d'opinion. Et visiblement, nous n'avons jamais été depuis 2001 en capacité de manager une partie du pays. Essentiellement, les zones rurales, les provinces et l'accès aux grandes villes. Les ravitaillements, les axes de communication. Ce qui vous met en possession, en situation déjà d'être, hormis politiquement, les maîtres du pays. Ensuite, donc, eux n'ont pas... ils se disent, nous avons un agenda qui est un agenda sur lequel nous sommes restés inflexibles. Nous voulons, avant de discuter avec les représentants du peuple, qui pour nous sont des représentants donc, de l'administration américaine, nous voulons nous débarrasser de la présence américaine. Par bonheur pour eux, ils trouvent en ce moment à la Maison-Blanche un représentant qui est capable de faire un deal, probablement, où d'ici novembre... d'ici le printemps 2021, c'est-à-dire dans 14 mois, les 12 ou 13 000 soldats américains, dont une bonne partie aujourd'hui, continuent à avoir une présence déterminante pour former les forces spéciales afghanes, qui sont les seules véritables unités de combat pour lesquelles, elles sont exsangues, elles sont éreintées, mais elles sont efficaces. Les talibans les redoutent dans une certaine mesure. Le président américain dit, bon, pour nous, au printemps 2021, il n'y aura plus personne. Bon, en revanche, d'ici là, nous acceptons aussi une sorte d'autre chose qui est un petit peu compliquée à avaler pour les autorités afghanes, mais également pour les forces de sécurité. Nous autorisons la libération de 5 000 prisonniers talibans qui sont aujourd'hui dans les geôles afghanes, en guise de, donc pour mettre sur la table les éléments de négociation. Les talibans disent, bon, ça pour l'instant, ça nous va, et en contrepartie, que disent-ils ? Que disent-ils ? Donc un des prérequis dans l'administration américaine, c'est bon, vous allez être gentil dans le futur, ce territoire-là ne doit plus être un refuge à nouveau pour les terroristes de tout poil, pour les organisations djihadistes, moins encore pour l'État islamique et surtout l'Al-Qaïda, on compte sur vous. Et puis si possible, si vous pouviez vous mettre autour d'une table et faire semblant de discuter avec des autorités qui sont, on va dire, américano-compatibles avec l'administration actuelle, ça sera très bien. Les talibans n'ont évidemment rien à refuser, donc on leur demande rien, les contreparties sont minimal, et surtout, comment peut-on aujourd'hui donc avoir la moindre confiance dans les semblants de promesses donc, que cette insurrection radicale peut tenir. Peut-être élément également différent, la branche des talibans qui négocie à Doha donc, avec l'administration américaine, donc sur un mode super délocalisé, et dans une certaine mesure relativement coupée des talibans du terrain, qui sont eu des branches comme l'expliquait tout à l'heure notre ami, très décentralisé, qui sont les hommes de terrain. Une bonne partie de cette représentation donc talibane officielle à Doha n'a pas forcément donc l'appui des gens sur place. Ça va évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, ça va encore complexifier cette donne.
Marc Sémo et puis Jean-Pierre Perrin.
Quelle que soit la chose qui est négociée entre les talibans et les autorités afghanes, en plus les autorités afghanes, seules, est-ce qu'elles ont les moyens de faire quoi que ce soit ? C'est-à-dire militairement, une fois partie l'essentiel des forces américaines, elles seront balayées. Donc on ne peut pas ne pas penser au précédent de 89 avec les soviétiques, ou à ce qu'avait été le retrait américain du Sud-Vietnam après les accords de paix. Ces pouvoirs fantoches ne tiendront que quelques mois. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une situation pure et simple de retrait américain et de paix bradée ?
De reddition.
De reddition, va de capitulation, de défaite.
Jean-Pierre Perrin.
Non, le régime communiste, le régime du président Najibullah, ne s'est pas effondré juste après le retrait.
Il a mis 3 ans.
Oui, mais pendant 3 ans. Et il s'est effondré ensuite pour une simple raison, c'est que l'URSS ayant été dissoute, elle n'était plus en capacité d'alimenter le gouvernement de Najibullah, communiste donc, en armes et munitions. Et en argent, évidemment, le nerf de la guerre. D'où, finalement, un certain nombre de composantes de son armée qui se sont ralliées à la guérilla, au Mujahideen. Donc c'est ça qui a fait tomber le régime de Najibullah. Donc, je veux dire, tant que l'armée américaine, et tant que l'administration américaine soutiendra l'armée afghane, bon, on peut peut-être imaginer que ça tiendra quand même un moment. Je ne sais pas combien de temps, mais ça tiendra un moment. Jusqu'à présent, d'ailleurs, les talibans n'ont jamais réussi à prendre une ville, ou s'ils l'ont prise, comme celle de Kunduz, ils ne l'ont tenue que très peu de temps. Donc je crois qu'effectivement, en ce qui concerne les campagnes, les talibans contrôlent environ, disons, 50% du territoire, c'est pas tout Afghanistan, hein, mais évidemment, dans le centre, par exemple, de l'Afghanistan, qui évidemment n'intéresse personne parce que t'as une région pauvre, peu peuplée et tout ça, il n'y a pas de talibans, par exemple. Tout simplement parce que la région est peuplée d'Hazara chiites, et donc les talibans n'y sont pas. Mais bon, combien de temps ça peut durer, ça, je crois que personne ne peut répondre à la question. Ça dépend aussi, évidemment, du gouvernement de Kaboul, qui quand même porte une responsabilité accablante sur la situation. Quand on a une situation aussi grave que la situation afghane, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une grande coalition, et à ce jour, le président Ashraf Ghani a été incapable de mener à bien cette mission.
C'est de sa faute à lui ? C'est sa responsabilité ?
En grande partie, oui, pas seulement, mais évidemment, Abdallah est aussi responsable. Mais quand même, on a des menaces qui viennent de tous les côtés, et ce gouvernement se déchire au jour le jour. Même les services secrets de l'un et l'autre ne collaborent pas entre eux.
Est-ce que ça veut dire, Jean-Pierre Perrin, qu'aujourd'hui à Kaboul, malgré les dissensions, celui qui décide, ça reste Ashraf Ghani ?
Oui, largement. Okay. Mais simplement, Ashraf Ghani, qu'est-ce qu'il est ? Bon, c'est un homme qui connaît pas très bien son pays, même s'il était anthropologue. Mais il a autour de lui une nuée de jeunes technocrates qui n'ont rien à voir avec les hommes d'Abdallah Abdallah, qui eux sont pour l'essentiel d'anciens combattants qui ont combattu les soviétiques, qui ont combattu les talibans. Mmh. Et donc, il y a déjà finalement ce hiatus entre les deux. Et puis, donc, on voit du côté des hommes d'Abdallah Abdallah, notamment de ceux qui se sont ralliés, une volonté de ne pas accepter la paix, justement, et de continuer le combat, ce qui entraînerait l'Afghanistan dans une véritable guerre civile.
Olivier Guillard, pourquoi ça n'a pas marché ? L'objectif des États-Unis, c'était d'organiser un transfert de compétences, de dire, bon voilà, on va former, on va armer les soldats afghans, et c'est eux qui vont s'occuper de la gestion de la sécurité du territoire. Ça n'a pas marché à double titre. D'abord parce que, comme le disait Jean-Pierre Perrin, en réalité, le territoire, il est en fait aujourd'hui largement dominé, même s'ils sont pas en capacité de prendre les grandes villes, mais il est quand même largement dominé par les talibans, à tel point d'ailleurs que on a cessé de compter, c'est-à-dire qu'on a arrêté de sortir des cartes et on arrête de compter tellement ils ont pris la situation en main. Et puis c'est aussi un bilan humain qui est terrible. 45 000 soldats afghans ont été tués, c'est ce qu'avait annoncé l'année dernière, en janvier 2019, Ashraf Ghani. Pourquoi ça a pas marché, cette stratégie?
C'est le transfert des
compétences en termes de sécurité.
Alors c'est effectivement un échec, sans l'ombre d'un doute. D'ailleurs, Ashraf Ghani, en se représentant donc devant les électeurs, son bilan national et international était extrêmement maigre, ténu, à tous les points de vue. Après, il n'a pas toutes les clés, il n'a pas donc tous les éléments, donc les leviers sur tous les... Mais en tous les cas, son administration sortante n'a pas fonctionné deux jours. Elle n'a pas fonctionné deux jours avec celui qui était son challenger pour la troisième fois, ou en tout le cas, Abdul Abdullah, qui aujourd'hui donc a menace de créer un gouvernement parallèle. Il a des soutiens dans le nord, dans le nord-est du pays, au sein de la population, en disant, nous, ce gouvernement qui nous est une fois encore de plus imposé probablement par la Maison Blanche plutôt que par le résultat donc des votes et les bureaux de vote qui ont été dépouillés ou autres. Donc nous ne reconnaissons
probablement pas. Vous confirmez, c'est les États-Unis qui ont choisi de reconduire Ashraf Ghani.
On peut dire que le soutien donc de la Maison Blanche à Ghani a été déterminant certainement dans l'équation future qui n'est jamais qu'un copier-coller de l'administration sortante avec une gestion du décompte des votes et de la validité des bulletins assez proche. En tous les cas, donc, on était en terrain connu des deux côtés. Donc l'administration sortante a une responsabilité prépondérante. La communauté internationale s'y est peut-être également pris encore bien légèrement, à savoir, après il est toujours assez difficile ou plutôt facile de taper sur l'administration américaine. L'administration américaine dit aujourd'hui, écoutez, ça fait 18 ans et plus que nous sommes investis ici. Fut un temps, nous avions 100 000 hommes qui étaient déployés sur place. Je vous laisse imaginer ce que cela peut coûter aux contribuables américains. Aujourd'hui, donc, avec ce qui est l'évidence peut-être pas d'un fourvoiement, parce qu'il faut être en Afghanistan. La France devrait encore certainement y être au même titre qu'une 40 autres nations de l'OTAN. On n'y arrive pas. On a essayé quantité de choses. On s'en sort pas. Les Afghans, mais pas uniquement le président en exercice, ont une part de responsabilité qui est considérable. On a une attitude qui est relativement prédatrice. Un petit peu comme Jean-Pierre, je me promène assez régulièrement donc dans ce pays. Je suis navré de voir que l'industrialisation, la mise en place de capacités économiques alternatives, donc, je me demande où tout cela est. Rien n'est visible, rien n'est absolument visible. Vous évoquiez tout à l'heure dans votre propos introductif magnifique, 1 000 milliards de dollars donc, qui ont été déboursés par le contribuable américain. On se demande, donc, en se promenant dans n'importe quel quartier de Kaboul, d'Herat, de Kunduz ou de Kandahar.
Oui, passé cet argent.
C'est évident que ce n'est pas passé là. Ouais. Donc ça crée un sentiment de beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de victimes, beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de frustration du côté des Afghans, mais également de la communauté internationale. On s'y est pas bien pris forcément.
Marc Semo et puis Jean-Pierre Perrin.
Alors, je voudrais quand même revenir aux voisins, et notamment au Pakistan. Quel est dans ce processus le rôle du Pakistan? Le Pakistan dans toute la crise afghane, un Pakistan considérant l'Afghanistan comme son hinterland, lui donnant la profondeur stratégique, a été le pompier pyromane, a été plus qu'ambigu. Et notamment, c'est grâce au Pakistan que les talibans, après qu'ils aient été chassés du pouvoir en 2000 ans, ont pu se réorganiser. Donc aujourd'hui, quel est le rôle du Pakistan dans ce processus en cours?
Je crois que Imran Khan, donc le premier ministre pakistanais, a joué un rôle déterminant dans les négociations. C'est lui qui a poussé les talibans à les accepter, à accepter le principe. Après la première rupture de ces négociations, vous savez, vous vous souvenez, après la déclaration de Trump disant, bon, je les ai invités à venir discuter à Camp David, mais ils ont commis un attentat qui fait que maintenant je peux plus les recevoir et que tout ça est remis en cause. Donc il y a eu cette rupture. Eh bien, c'est à nouveau Imran Khan qui les a repoussés à revenir négocier avec les États-Unis. Donc, on peut estimer que pour une fois, le Pakistan n'a pas joué le rôle du pyromane, mais simplement qu'il a été beaucoup plus conciliant, qu'il a même joué un rôle déterminant dans l'acceptation par les talibans de négociations.
Et comment le comprendre? Pourquoi conciliant?
C'est le jeu pakistanais. Le jeu pakistanais est toujours très compliqué.
Mais justement,
Imran Khan a des bonnes relations avec les islamistes. Il a de bonnes relations avec l'armée. Alors donc, entre les uns et les autres, tout n'est pas forcément compatible. Je pense qu'il a vu quand même l'intérêt qu'il y avait à pacifier le front de la ligne Durand, hein, pour faire simple. Et puis, il y a eu quelques avancées afghanes qui n'ont pas été remarquées, mais qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a eu les premières déclarations afghanes
actant une certaine reconnaissance de cette frontière que l'Afghanistan se refuse à reconnaître. Donc ça, je crois quand même qu'il fallait récompenser un petit peu l'avancée afghane sur ce point. Alors évidemment, le gouvernement afghan ne dira jamais qu'il reconnaîtra la frontière. Mais il y a eu quand même quelques petits gestes, la création d'un hôpital à côté, vous voyez, enfin, tout ça a créé une bonne ambiance. Et puis, on a oublié le rôle de Moscou qui est très important.
On va en parler. On va en parler. Ben, vous pouviez oui. finir votre phrase, Jean-Pierre. Oui.
Deux visites officielles oui. des talibans à Moscou, alors que les talibans sont classés parmi les organisations terroristes par Poutine. Donc, on pense aussi que Moscou a joué un rôle plutôt stabilisateur. La crainte de Moscou, c'est la déstabilisation, évidemment, d'Asie centrale. Les principaux déstabilisateurs, c'est l'État islamique et les djihadistes et le mouvement islamique du Turkménistan, etc. Donc, ils ont plutôt tendance à inciter les talibans à la modération.
Voilà. Est-ce que Moscou pourrait sortir de sa manche un accord comme il l'a fait sur la Syrie? On garde cette question pour tout à l'heure. D'abord, place à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est la bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux!
Assis!
Présenté par Hélène Lefrançois. Bonjour Hélène.
Bonjour Florian.
Et ce dessin ce matin qui revient sur 19 années de mensonges et d'informations dissimulées sur la guerre d'Afghanistan.
La première victime de la guerre, c'est la vérité. C'est cette citation attribuée à Eschyle que le dessinateur de presse américain John Darko a choisi pour expliciter sa caricature. Il l'a publiée le 12 décembre dernier dans le journal en ligne Columbia Missourian, quelques jours après les révélations du Washington Post sur le fiasco de la guerre en Afghanistan. En effet, le 9 décembre, le quotidien américain publiait les Afghanistan Papers, des documents déclassifiés qui prouvent que les autorités américaines avaient des doutes sur le bien fondé et l'efficacité de leur intervention. Et pourtant, Donald Trump, tout comme ses prédécesseurs George Bush et Barack Obama, n'a jamais eu le courage de l'assumer. Sur ce dessin, qui représente une carte de la région, le sol de l'Afghanistan s'est effondré. Le pays n'est désormais plus qu'un énorme trou béant duquel de la fumée s'échappe. Deux personnages se tiennent sur le bord du précipice. On devine que c'est Donald Trump et le chef d'état-major des armées, Martin Dempsey. Le président américain contemple l'étendue des dégâts et ordonne à son complice « Dites simplement à tout le monde que nous faisons des progrès ». Ce dessin semble nous dire qu'en cette période électorale, Donald Trump préfère continuer à faire comme si tout allait bien, lui qui s'est engagé à mettre fin aux guerres sans fin. On l'a entendu au début de cette émission, il opte pour un discours trop optimiste pour être crédible, trop simpliste pour illustrer la complexité de la situation sécuritaire en Afghanistan. Mais ce dessin permet aussi de prendre un peu de hauteur. Donald Trump n'est pas le seul à observer ce trou béant. Le 18 décembre dernier, Iran, Russie, Chine, Inde, Tadjikistan, Ouzbékistan et Afghanistan se sont réunis à Téhéran pour parler sécurité régionale et se pencher plus particulièrement sur le cas de l'Afghanistan. À l'issue de cette réunion, l'Iran d'ailleurs a désapprouvé les négociations engagées entre les États-Unis et les talibans et accusé l'administration américaine de se servir de la situation en Afghanistan pour créer de l'insécurité aux frontières de l'Iran, de la Russie et de la Chine.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin qu'on va mettre évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur le fil Twitter du compte de Culture Monde. Olivier Guillard, Jean-Pierre Perrin, peut-être une réaction, Olivier Guillard? Peut-être sur les Afghanistan Papers, c'est vrai que c'est absolument incroyable. Les Washington Post qui révèlent ces documents confidentiels expliquant que les administrations américaines successives, à peu près toutes, ont dissimulé les doutes qu'ils avaient quant à la possibilité de gagner cette guerre. Et malgré tout, on continue et on dépense de l'argent, des centaines de milliards de dollars, 1 000 milliards de dollars au total, hein, Olivier Guillard.
Vous avez raison, je reviendrai après sur ce dessin qui est juste extrêmement éclairant. Une fois de plus, il est tristement réaliste. La réalité, elle est vraiment là plutôt sur ce dessin que dans les discours des administrations américaines successives. J'y vois quand même, pour évoquer d'un mot ces Afghanistan Papers, la seule chose rassurante, si l'on peut le dire, c'est que ce n'est pas un aveuglement stupide ou une idéologie qui marque un petit peu une façon de gérer le conflit. Les Américains se sont rendus compte, donc, pour nombre d'entre eux, qu'ils soient... Plus on est sur le terrain, plus on se rend compte des choses. Dans le confort de la Maison-Blanche ou du département d'État, les choses sont un petit peu plus climatisées, on est un petit peu loin de tout. Mais ils se sont rendus compte depuis le départ que ça serait... beaucoup plus long qu'ils seraient capables de le vendre aux électeurs, ça serait beaucoup plus coûteux qu'on devait accepter une part de frustration et de permanente, avec des échecs beaucoup plus nombreux que des réussites.
Sauf qu'ils l'ont caché.
Sauf qu'ils l'ont caché, même si tout le monde, si personne n'était dupe. Il y a eu, donc, au fur et à mesure de ces décennies qui se sont succédées et de ces administrations américaines qui ont accompagné ce jeunement, il y a toujours eu, donc, des témoins. Des fois, c'est tantôt des chefs militaires, des fois des responsables de l'OTAN, des fois des responsables du département d'État, à émettre des doutes ou dire, écoutez, c'est en définitive moins simple que ce que l'on pense, ça sera encore un petit peu plus douloureux. Il faut soutenir, c'est un processus qui ne s'étire pas sur un mandat électoral, mais sur une génération d'hommes. Il va falloir faire encore des sacrifices autres. À chaque fois, donc, le tout était pondéré de présentations assez flatteuses des choses. Regardez, dans le Badakhshan, il y a eu moins d'attentats, il y a eu moins de personnes kidnappées également dans le sud, dans l'ouest, Herat. Donc, ils sont fait un commerce florissant avec les voisins, etc., etc. Mais sur le terrain, on ne sait jamais rendu compte qu'il y avait un basculement, ça c'est certain, donc en faveur d'une sortie de crise possible, négociée, profitons à tous. Et évidemment, au milieu de tout ça, donc l'enthousiasme des administrations américaines successives pour dire, on y arrivera, après tout, nous sommes la première nation du monde, nous avons des alliés dans la région, enfin, il n'y en a pas tant que ça, il faut être honnête. Et pour revenir peut-être d'un mot, pour faire le lien avec ce que vous disiez sur le Pakistan, si le Pakistan s'est montré donc dernièrement assez coopératif, ils se sont fait aussi relativement taper sur les doigts par Washington, qui leur a dit « la nature exsangue de vos finances ne vous autorise pas à faire tout et n'importe quoi encore. Vous devez avoir une nouvelle tranche de crédit qui sera délivrée par le Fonds monétaire international. Et actuellement à Paris, vous êtes censé être placé sur la liste des noirs des pays ne faisant pas le travail pour lutter contre l'antiterrorisme d'un point de vue financier. Tout ceci vous pend au nez, chers amis, faites peut-être quelque chose. » Donc M. Khan, qui n'a pas plus d'autorité dans ce pays qu'un capitaine de cricket qu'il était, s'est rangé à l'avis des militaires qui lui ont dit « bon, on va faire un peu le job légèrement, mais en tous les cas, on ne change strictement rien à notre politique dans ce pays. Les talibans restent à nous. »
Oui, et puis par ailleurs, on peut aussi comprendre que les Pakistanais aient poussé à cette option-là, aient poussé à la négociation, puisque de toute façon, c'est leur intérêt que d'avoir des talibans qui font leur grand retour, parce que ça leur permet d'accroître encore leur influence en Afghanistan. Au fond, c'est tout simplement la défense de leur intérêt. Jean-Pierre Perrin, peut-être sur la Russie, ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Juste un mot quand même sur le Pakistan. Je crois que finalement, les Américains ont toujours très mal joué avec le Pakistan. Ils n'ont jamais su vraiment l'appréhender comme il le fallait. Et donc, regardez, les chiffres officiels disent que 70% des pertes en Afghanistan, au sein des forces de l'OTAN et donc de l'armée américaine, eh bien 70% de ces pertes, chiffres officiels, sont dus aux engins, aux explosifs improvisés, ce qu'on appelle ces bombes artisanales qui explosent le long des routes sur le passage des convois de l'armée américaine. Eh bien, tous ces explosifs viennent du Pakistan pour une grande majorité. Il y a eu une étude qui a montré qu'elles étaient fabriquées dans deux entreprises seulement pakistanaises. Jamais on n'a fait fermer cette entreprise. Alors sans doute que si on les avait fermées, on les aurait fabriquées dans la fabrique d'à côté. Mais quand même, c'est un signe que jamais il y a eu une véritable pression américaine sur le Pakistan. Il y en a eu parce que plusieurs fois les responsables américains ont tensé le Pakistan, notamment après le gros attentat qu'il y a eu contre l'ambassade d'Inde à Kaboul. Évidemment, les généraux américains ont dit aux Pakistanais, nous avons des preuves que c'est vous. Bon, mais ça n'a jamais été vraiment suivi d'effet. Simplement, Trump a effectivement coupé une grande partie de l'aide américaine et ça a eu sans doute les conséquences que l'on sait.
Alors, Jean-Pierre Perrin, sur la question de la Russie, parce que Moscou, comme avec la Syrie, a engagé un processus de discussion alternatif avec les talibans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et est-ce qu'on pourra imaginer que, comme avec la Syrie, Moscou nous sorte de sa manche un accord avec les talibans? Jean-Pierre Perrin et puis ensuite Olivier Guillard.
En tout cas, il semble que les talibans aient fait savoir à Moscou qu'ils s'engageaient un peu à protéger la frontière entre l'Afghanistan et l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, et qu'il n'y aurait pas donc d'infiltration, et qu'eux-mêmes s'engageaient à ne pas mener d'opérations de déstabilisation du type djihadiste de l'autre côté. Et donc je crois que c'est ça qui plaît beaucoup à Moscou, et en même temps ils se sont engagés. On voit les talibans quand même très offensifs contre l'État islamique en Afghanistan, même si c'est uniquement quelques milliers d'hommes, et donc je crois que ça, quand même, conforte Moscou que l'Afghanistan stabilisé par les talibans peut être une carte à jouer.
Ça, peut-être que les talibans vont sortir de la liste de Washington
et de Moscou.
Des terroristes et de Moscou. Peut-être même devenir des alliés de la lutte contre le terrorisme.
Je crois qu'on n'en est pas là parce qu'il y a quand même toujours une contradiction chez les talibans entre ce qu'ils disent, les écrits que l'on peut lire, parce qu'ils produisent beaucoup quand même d'écrits. Et si on regarde ces écrits, quand même, le djihadisme n'est pas loin de leurs préoccupations.
Olivier Guillard, parce que c'est quand même ça le pari de Washington, c'est de miser sur les talibans pour lutter contre Daesh.
Par définition, si une administration américaine s'engage formellement à discuter de paix avec des représentants donc des talibans, c'est que les talibans ne sont plus, il n'est plus anathème de discuter avec eux, ce sont des gens pratiquement fréquentables, et d'autant plus fréquentables que demain, ils pourraient partager donc le pouvoir, en tous les cas s'associer au pouvoir avec les représentants, donc un petit peu plus démocratiquement élus, si tant est que le concept fasse encore sens dans ce pays, pour gérer les 35 millions de vies quotidiennes des Afghans. Personne n'est dupe là encore. Moscou, évidemment aussi, utilise ce levier afghan pour dire, écoutez, nous au moins on discute aussi avec les talibans, nous sommes aussi un interlocuteur supplémentaire, et puis tout à fait entre nous, mieux vaut qu'on soit parti donc aux discussions plutôt qu'en sous-main. N'oublions pas également, il y a un autre forum délocalisé régional qui intègre des discussions délocalisées avec les talibans.
Et la Chine.
C'est la Chine. Donc la Chine qui a quelque intérêt également aussi, d'une manière un petit peu... Enfin, il ne faut pas les oublier. Ils ont des intérêts qui sont aussi économiques, des intérêts de puissance et des intérêts de contestation également d'autres velléités d'influence régionale, de l'Inde notamment et des
États-Unis. Et il y a une délégation des talibans qui est venue...
Qui est venue avec un...
Bien sûr.
Cette idée de miser sur le côté national des talibans contre la partie plus djihadiste des talibans, ça avait déjà commencé avec l'administration Clinton, et même... En 2001, à un moment, il y avait eu une tentative de dire, parce que finalement, on jouera pas ça pour régler la question.
Jean-Pierre.
Pierre. Oui, absolument. Oui. Donc je crois que le jeu reste quand même.
Donc c'est un peu tout ça pour ça, quand même.
Oui. Absolument. Mais alors, mais tout ça est beaucoup plus complexe encore, parce que si jamais nous avons un gouvernement, comprenant à la fois des talibans et à la fois des rescapés de l'administration Rani, et voire des gens d'Abdallah, il y a déjà une première chose qui frappe, c'est que les talibans ne savent pas gérer un État, n'ont aucune idée de ce que c'est de prélever des impôts, ne savent pas absolument pas ce que c'est, ce sont des taxes par exemple, ne savent rien en matière d'éducation. Alors évidemment, comment ça va marcher? C'est ça le grand point d'interrogation. Mais on a des gens qui n'ont jamais géré un État et qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir de 96 à 2001, ne géraient pas l'Afghanistan. C'est pas vrai. Les ministères ne servaient absolument à rien. Donc, le point d'interrogation. Et puis, lorsqu'il y a eu une première trêve au mois de juin de 2018, je crois, à ce moment-là, on a vu les talibans arriver en ville. À Kaboul, puisqu'il y avait la trêve et donc ils pouvaient circuler librement. Et on a vu immédiatement dans la population la terreur néanmoins qu'ils suscitaient, en particulier sur la classe moyenne ou la classe supérieure.
Olivier Guillard, en guise de conclusion, on
arrive à terminer l'émission. Pensez un petit peu aussi aux forces de sécurité afghanes, à la police, à l'armée qui se dit demain, donc visiblement, nous allons avoir des patrons ou des coups-patrons qui pourront être les gens que nous combattons aujourd'hui. Leurs combattants, que vont-ils devenir? Vont-ils intégrer les rangs de la police également? Vont-ils intégrer les rangs de l'armée? Donc devons-nous les battre aujourd'hui, continuer à combattre ceux qui pourraient demain être nous supérieurs éventuellement dans les mêmes unités? Ça pose des questions existentielles quasiment surréalistes.
Merci beaucoup à tous nos invités. Olivier Guillard, je rappelle que vous êtes directeur de l'information chez Gardam World et puis chercheur au CERIAS de l'Université de Québec. Un grand merci à vous, Jean-Pierre Perrin, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Mediapart, écrivain, auteur, je le rappelle, du « Ce djihad contre le rêve d'Alexandre », c'était paru au Seuil, de « La mort est ma servante », c'est paru chez Fayard, c'était en 2013. C'est les deux que je cite très souvent. Merci beaucoup, cher Jean-Pierre. Marc Sémo, on se retrouve la semaine prochaine, notre partenaire du Monde, comme tous les vendredis. Ce sera avec plaisir. Thank you. Et dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.